Bonsoir.
Plus de 300 détenus évadés, 4 morts, 4 blessés et 6 armes AK-47 emportées par les fugitifs. C'est le bilan de l'évasion la semaine dernière à la prison centrale de Bukavu. Une cinquantaine parmi les fugitifs ont été appréhendés lors des opérations de ratissage, selon le ministre provincial de la Justice. Quelle analyse faire de cette situation et que faire pour améliorer les conditions carcérales en RDC? Nous en parlons avec Maître Donatien Mouleme Oderoi, il est conseiller juridique au ministère provincial de la Justice, droits humains, fonction publique et relations avec la société civile du Sud Kivu. Bonsoir Maître Donatien Mouleme Oderoi. Voilà, il va nous rejoindre. Maître Onésime Ndoudi, il est président national de l'Organisation congolaise pour la défense des prisonniers congolais. Bonsoir Maître Onésime Ndoudi.
Bonsoir.
Et Maître Rifin Louko, il est chercheur en droits humains. Bonsoir Maître Rifin Louko.
Bonsoir Guy Maté, bonsoir à tous les auditeurs.
Gérard Kazingoufou de Beni au Nord Kivu, les évasions récurrentes dans les prisons congolaises s'expliquent par les conditions inhumaines qui les caractérisent et obligent les détenus à tenter la mort en se faisant la belle plutôt que rester dans ces conditions innommables. Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Sud Kivu, plus de 300 détenus évadés, 4 morts, 4 blessés et 6 armes AK-47 emportées par les fugitifs. C'est le bilan de l'évasion. La semaine dernière, à la prison centrale de Bukavu, une cinquantaine parmi les fugitifs ont été appréhendés lors des opérations de ratissage, selon le ministre provincial de la Justice. Jean Kassami pour les détails.
Ce bilan, toujours provisoire, est fourni par nos sources proches de la prison centrale de Bukavu, qui ont requis l'anonymat pour des raisons de leur propre sécurité. L'évasion est intervenue lorsque les surveillants de la prison voulaient ouvrir la porte. Les prisonniers se sont rués sur lui et ils l'ont tué sur les champs. Les mêmes prisonniers ont réussi à maîtriser les militaires et les policiers commis à la garde. Ils leur ont ravi les armes avec lesquelles ils se sont mis à tirer, faisant 4 morts, 2 militaires et 2 prisonniers, 4 blessés, tous des prisonniers, et 6 armes AK-47 emportées. Les mêmes sources indiquent que la tension était perceptible au sein de cette institution pénitentiaire depuis le changement du directeur de la prison. Ceux qui se sentaient protégés par les directeurs sortants se sont ligués pour remettre la pendule à l'heure. Au moment de l'évasion, la prison centrale de Bukavu comptait 1515 détenus, soit le triple de sa capacité d'accueil. Bukavu, Jean Kassami, Radio Okapi.
Maître Donatien Mouleme Oderoi, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Je rappelle que vous êtes conseiller juridique au ministère provincial de la Justice, droits humains, fonctions publiques et relations avec la société civile du Sud Kivu. 301 personnes évadées, 4 morts, 4 blessés, 6 armes AK-47 emportées par les fugitifs. Et vous qui êtes à Bukavu, comment on peut expliquer cette situation?
Oui, merci. Merci pour la question. Et bonsoir à vous, journalistes, et bonsoir aux collègues et collaborateurs. En effet, tout a commencé avec la suspension de l'ancien directeur de la prison qui était accusé de plusieurs fautes disciplinaires, à savoir, il avait d'abord... tout avait commencé avec
la suspension de l'ancien directeur de la prison
qui avait créé une certaine affinité avec un grand nombre de prisonniers, surtout les prisonniers militaires à l'intérieur de la prison. Ensuite, celui-ci avait occasionné plusieurs évasions. Il avait instauré un système de monnayage des visites. Il avait aussi instauré un système de rançonner les prisonniers à telle enseigne que pour avoir droit à la cour, il fallait payer $50. Pour avoir droit au quartier appelé spécial, il fallait payer $300. et tout visiteur qui devait venir visiter un détenu, il devait payer plus de 1000 francs congolais. Et il a plu à l'autorité provinciale de le suspendre de ses fonctions. Vous comprenez donc que le militaire qui trouvait leur intérêt, ainsi que lui-même, et le groupe des surveillants étaient mécontents de cette suspension, ce qui a causé, n'est-ce pas, la situation que nous avons déplorée en date du 5 juin 2014.
Oui, Maître Donatien, vous dites que tu es parti de la suspension de l'ancien directeur de la prison et que dans les reportages que nous avons suivis, on dit que la tension était perceptible depuis plusieurs jours. Et saviez-vous que cette tension était perceptible, que certains prisonniers qui se sentaient protégés par l'ancien directeur et que ces prisonniers étaient mécontents? Est-ce que vous le saviez?
En fait, nous ne savions pas toute cette situation là-bas. Il a fallu qu'arrive, n'est-ce pas, dimanche passé, le 1er juin 2014, pour que les incidents qui sont passés le même dimanche nous inspirent. Et ce départ, un monsieur, un détenu, appelé capitaine général de la prison qui avait révélé certaines choses à la directrice de la prison. C'est celui-ci qui avait dit à la directrice qu'ils étaient instrumentalisés par l'ancien directeur de prison ainsi que les surveillants qui étaient de son obédience. Presque tous les surveillants, en fait, qui trouvaient leur compte dans toutes ces fautes que commettait monsieur le directeur, trouvaient mécontents de sa suspension et qui ont commencé ainsi à instrumentaliser les prisonniers.
Voilà, Maître Donatien, dans les reportages que nous avons suivis, il est dit que les prisonniers ont tué les surveillants et ont réussi à maîtriser les militaires et policiers commis à la garde. Ils leur ont ravi les armes avec lesquelles ils se sont servis. Peut-on comprendre que des personnes sans armes arrivent à maîtriser des militaires, des policiers qui sont armés?
Non, c'est bien simple. C'est bien simple à comprendre si on essaie de revenir sur le récit des faits. En fait, il était 6 heures du matin quand le surveillant est entré dans la prison à l'intérieur avec les clés pour enfin ouvrir des prévenus. Il avait commencé par la cellule dans laquelle vivait le capitaine général. Après avoir ouvert cette cellule, il était lui-même accompagné des policiers qui étaient en civil et sans armes, bien entendu, qui doivent l'assister. Mais les policiers avaient constaté qu'il y avait une grande agitation dans la cellule où vivait le capitaine général. Parce qu'il avait aperçu à l'intérieur des prisonniers qui, en se levant, mettaient chacun des pantalons, des chemises. C'est ainsi qu'il avait demandé aux surveillants de vite aller fermer la grille d'entrée pour que ceux-ci ne puissent pas sortir. Mais dans l'entretemps, il y a que dans les cellules, il n'existe pas de toilettes, ce qui fait que la nuit, ils ont un coin où ils doivent se débarrasser et le matin, c'est au matin, ils doivent évacuer toutes ces saletés. Et c'est ainsi que le capitaine va demander à son secrétaire, avec cela qui devait évacuer les saletés, de sortir pour aller jeter les saletés. Pendant que le surveillant était en train de fermer la grille, pendant que le surveillant était en train de sortir de la prison, il avait derrière lui le capitaine général ainsi que son secrétaire qui se sont précipités dehors à l'extérieur de la prison accompagnés de 4 autres prisonniers qui avaient la saleté dans les différents seaux. C'est ainsi que le capitaine s'est mis à causer avec les militaires commis à la garde, mais c'était en fait pour les distraire il y en avait un qui était en train de s'échauffer et deux autres étaient en train de rincer les dents. Et c'est ainsi que, Ditré, les prisonniers ont pu sauter sur les armes et se les sont appropriées jusqu'à tirer directement sur les policiers qui étaient armés et qui pouvaient les inquiéter.
Maître Donatien, les prisonniers ont arraché les armes, n'est-ce pas, des militaires et ont utilisé ces armes. Peut-on affirmer que parmi ces 300 fugitifs, il y avait des prisonniers militaires et policiers? Parce qu'un civil, même s'il a une arme, étant donné qu'il n'a pas été, n'est-ce pas, entraîné au maniement d'armes, il ne peut pas utiliser cette arme. Donc ces militaires, ces prisonniers qui ont arraché les armes et qui les ont utilisées étaient des prisonniers militaires et policiers.
Oui, c'était des prisonniers militaires, c'était des prisonniers militaires précisément.
Ok, merci, je vais vous redonner la parole. Maître Onésime Ndoudi, vous êtes président national de l'Organisation congolaise pour la défense des prisonniers congolais. Comment analysez-vous cette évasion tragique à Bukavu, Sud-Kivu?
Merci pour la parole, mais c'est d'abord malheureux, puisque nous avons toujours décrié ce genre de manière, cette politique gouvernementale. Comment pouvez-vous comprendre que dans une prison civile, qu'il y ait encore des militaires? C'est vraiment, il y a une incompatibilité. Alors, nous avons toujours dit que l'État congolais, notre gouvernement ici est démissionnaire et irresponsable. Puisque dans une prison de plus de milliers, de plus de 1000 personnes, qu'on trouve que des policiers ou 6 policiers avec 6 armes. Quel type d'armes? Les AK. Ce ne sont que des armes déjà démodées qui ne plient à la mode, qui ne peuvent plus servir pour la sécurité d'une grande population, d'une grande prison comme celle-là. Non. Il y a trop. Les autorités congolaises prennent toutes choses à la légèreté. Voilà pourquoi cela nous amène autant de dégâts comme celle-ci. C'est vraiment impitoyable.
Et comment peut-on comprendre que dans une même prison où les détenus sont condamnés pour les mêmes faits, qu'il n'y ait pas d'équité dans les traitements de ces prisonniers? Parce qu'on dit ici qu'il y avait des prisonniers qui étaient considérés comme étant privilégiés par rapport à d'autres.
Il est élu domicile, une culture qui a élu domicile dans le chef de nos établissements pénitentiaires, où le chef d'établissement devient un chef coutumier. Or, la loi pénitentiaire, l'ordonnance 344 de 1965, dit qu'un chef d'établissement ne peut faire que 3 ans dans un établissement pénitentiaire. Mais aujourd'hui, nous avons des établissements pénitentiaires où le chef d'établissement arrive à faire 10 ans. Donc, c'est déjà un chef coutumier. Il s'est familiarisé avec des prisonniers. Il a même fait, je ne sais pas, des cliques, des familles, des groupes. Il y a même ceux qui sont pro chef d'établissement et ceux qui sont contre le chef d'établissement. Et ceux qui sont pro chef d'établissement, ce sont ceux qui sont en fonction. Là, puisque la sécurité dans nos prisons ne sont pas tellement de sérieux, on prend les détenus à la sécurité de leurs propres collègues. C'est inconcevable. Ça se trouve que chez nous.
C'est fait au vu au sud de tout le monde.
Oh. On ne réprime personne, puisque c'est maintenant, qu'est-ce que je peux dire? C'est maintenant institutionnalisé. C'est officialisé que les prisonniers se fait membre de la sécurité de ses collègues prisonniers. Qui sera d'accord aux uns aux autres? Puisque nous sommes prisonniers, nous sommes égaux devant la loi. Et comment qu'il peut y avoir des prisonniers et privilégier les autres moins privilégiés? Non, il faut que cela crée des tensions comme celle-ci.
Il y a aussi ce problème de surpopulation dans les prisons. C'est une prison qui était construite pour accueillir environ 500 personnes. Là, on nous parle de plus de 1500 prisonniers.
Nous avons toujours dit, l'État congolais a hérité les prisons que nous avons. C'est les infrastructures que nous avons récupérées de l'État colonial. L'État congolais n'a fait aucun effort pour pouvoir construire de nouvelles infrastructures, qui sont déjà dans un état de délabrement très avancé, et qui, avec le système de gestion des dossiers auprès de nos magistrats, il y a un problème sérieux, puisque il n'y a même pas, les magistrats ne réconcilient pas le jeu, même pour des faits bénins, on déplace au mandat d'arrêt provisoire. Alors comment on ne peut pas, et puis la lenteur administrative, la procédure de détention. Je regrette que les ministres, les vice-ministres des droits humains, qui venaient de faire le tour de prison, n'arrivent pas à sanctionner certains magistrats ou chefs de juridiction, puisque cela vient de là.
Voilà, vous avez évoqué un certain nombre de faits, la lenteur des procédures de l'administration, la procédure de détention, la démission de l'État plutôt congolais. Vous avez rappelé la loi ici sur les chefs d'établissement. Et par rapport à votre vocation, celle de défendre les droits des prisonniers congolais, avez-vous déjà relevé les problèmes liés à la séparation des catégories des prisonniers? Parce qu'ici, apparemment, ils étaient mêlés à civils et militaires, policiers, ils étaient ensemble, dans presque les mêmes cellules.
Je suis beaucoup impliqué dans ce genre de trucs. Si ici à Kinshasa, nous avons pu réussir la réhabilitation de la prison d'Indolo, nous avons débattu cette chose avec M. Youssouf Ndiaye à l'époque, qui était le chargé de la détention de la Monisco. Et nous avons travaillé, nous avons rencontré des partenaires et les ministres pour que nous ayons un projet pour pouvoir séparer les civils aux militaires. C'est comme ça que nous avons reçu un financement qui a permis la réhabilitation de la prison militaire d'Indolo. J'ai fait même des projets, même à l'époque du ministre sortant le Zolo, nous avons débattu sur ce plateau avec le confrère qui est avec moi ici, sur ce même. J'ai fait un projet que j'ai déposé. Les conseillers de détention à l'époque, M. Matata, nous avons travaillé avec lui dans un projet pour pouvoir séparer les militaires aux civils. Mais malheureusement, c'est un cri qui tombe dans les oreilles des sourds.
Maître Konozim Ndoudi, nous allons prendre pour vous cette réaction qui vient de Kananga au Kasaï occidental.
Maître Adrien Ilobakoui Pero à Kananga, au Kasaï occidental. L'évasion des prisonniers à Bukavu ne me surprend pas au vu de l'état actuel de nos prisons qui sont dans un état très avancé de délabrement. Aucun effort n'est fourni par nos autorités pour les améliorer. Ne soyons pas surpris lorsque notre cas d'évasion se signalera dans une autre prison, car ceux qui y sont, à mon humble avis, sont des volontaires qui n'ont pas où aller.
Maître Konozim Ndoudi.
Je ne peux que souscrire dans cette logique-là, puisque je l'ai dit, les établissements que nous avons, c'est ce que nous avons hérité de l'état colonial. Ils qui sont déjà dans un état de délabrement très avancé et qu'on ne peut même pas mettre ce nombre de prisonniers là-bas, la promiscuité même amène à ce que cette prison devienne faible.
Avez-vous une idée sur le budget qui est affecté au fonctionnement des différentes prisons en RDC? Parce qu'il y a un budget.
Oui, un budget de malheur. C'est sur ces plateaux où j'ai évoqué, à l'époque de Mosito, où un prisonnier congolais n'avait droit qu'à 700 francs congolais dans les budgets de Mosito 2. Alors, quand ces 700 francs congolais tombent, sortent du gouvernement, les premières mains qui reçoivent les 700 francs enlèvent 100 francs. Dans la deuxième personne qui va recevoir les 700 francs, les 600 francs, il enlève 100 francs. Et jusqu'à ce que cela arrivera en prison, il n'applique droit à 300 francs. Qu'est-ce que cela avait pu lui procurer?
Merci, Maître Arifin Louko, chercheur en droits humains. Les évasions sont récurrentes dans les prisons de la RDC. On en parle, on dénonce, mais rien n'échange. Au contraire, la situation empire. Comment vous expliquez cela?
Hélas, nous étions ici au mois de mars. On a parlé évasion. Le présentateur, c'était Guy Maté. On était ici en décembre, on a parlé prison. le présentateur c'était Alain Irung, et on peut citer comme ça. Qui nous écoute? Alors, dans les statistiques, Guy, chaque fois qu'il y a évasion, soit il y a eu une complicité, soit il y a eu une négligence, soit il y a eu une défaillance quelconque. Donc, dans tous les cas de figure qu'il y a évasion, il y a cette variété ou ces paliers-là des raisons. Alors, la prison de Bukavu, la prison centrale de Bukavu, qui est à côté du rond-point 24 novembre, est parmi les prisons de la République qui battent les records, qui rivalisent maintenant avec les stades omnisports, c'est-à-dire de football. Elles sont au milieu de la ville. Alors qu'à l'époque, à la construction de cette prison centrale de Bukavu, comme celle centrale de Kinshasa, c'est-à-dire de l'éducation de Makala, c'était des prisons qui étaient dans la brousse éloignée de la ville. Aujourd'hui, la prison de Bukavu, la prison de Kinshasa, sauf peut-être plus ou moins Kasapa, qui est encore un peu éloigné de la ville, mais la plupart de nos prisons sont maintenant dans les villes, comme le stade des martyrs ici, dans la ville.
Et celle de Bukavu n'est même pas clôturée?
Elle n'est pas clôturée, il n'y a que les murs de la part. Et la prison de Bukavu, depuis longtemps, elle est devenue toute petite. Vous me posez la question de savoir, Guy, nous en parlons, rien ne change, ta question se termine pas, ça ne fait que s'empirer. Mais tout simplement et principalement parce qu'il n'y a pas de sanctions dans tout le cas de figure. Alors, lorsque vous suivez les schémas chronologiques du conseiller juridique du ministre provincial, vous sentez que c'est lamentable. D'abord, un surveillant pour une prison, un surveillant civil, pour une prison qui regorge en son sein des militaires, non, en fait, des prisonniers, des condamnés mixtes. Hommes, civils, militaires et femmes. Tout ça dedans.
Alors, il n'y a même pas de toilette dans ces prisons.
La prison de Bukavu, je la connais très bien. Je suis parti là-bas plusieurs fois comme conseiller juridique et porte-parole du ministère de la Justice. Je connais l'état de cette prison. Et là, mon Dieu, ce sont des efforts monumentaux sur lesquels on crache comme ça. On crache par cette évasion. Ça veut dire que le pays a fourni des efforts énormes pour administrer la justice. En chambre foraine à Kalehe, en chambre foraine à Ouvira, en chambre foraine à Walungu, en chambre foraine à Ouidui, la justice militaire était partout là-bas. Et on a condamné plusieurs criminels dangereux qui étaient dans cette prison.
Ok, vous les condamnez pour les amener où?
Non, la justice fait son travail pour les condamner. Ouais. Et puis, vous savez, mon Dieu, je ne sais pas s'il faut dire ça comme vous là, la presse, lorsque vous en parlez, vous n'avez plus d'expression pour vous faire entendre. Nous nous retrouvons sur cette antenne, hélas, n'avoir plus d'expression pour nous faire entendre. Parce que, à l'époque, lorsque nous étions, notamment dans ces ministères chargés des charges publiques, on a considéré que toutes les prisons, dans le projet, dans ces conducteurs-là, dans ces cahiers de charges, n'est-ce pas, ou feuilles de route, nous avions considéré que toutes les prisons qui étaient disséminées dans tous les territoires, dans presque chaque zone à l'époque, ou aujourd'hui territoire, avaient une prison, et qu'on ne peut plus réhabiliter toutes ces prisons, ce sont des fonds énormes. Il faut donc faire ce qu'on appelait, comme aux États-Unis, au Canada et partout ailleurs, les régions pénitentiaires, construire 2, 3, 4, 5 grandes prisons nationales. Ce sont des prisons qu'on peut appeler nationales et non des prisons provinciales. Et dans ces prisons-là, par leur grande capacité, vous vous rappelez la première prison qu'on avait commencée, c'était la prison pilote de Bounia. C'est-à-dire, et dans ces prisons-là, on devait faire, j'avais d'ailleurs complété le collègue que non, après l'indépendance, on a construit quelques prisons. La prison du Cinquantenaire au Bandundu a été construite par le partenaire et le gouvernement, la prison de Bounia, la prison de Beni, et consorts. J'ai pu citer comme ça quelques prisons qui étaient construites.
Et donc, le gouvernement a fait quelque chose.
Enfin, bon, quelque chose, hein. Donc, tant bien que mal, quelque chose. C'est pour dire que nous avons fait quelque chose.
Voilà. Mais c'est pas suffisant. Pour ce qui est de Bukavu, 54 détenus sur plus de 300 ont été attrapés. Et donc, on peut dire qu'environ 250 sont dans la nature.
Ils sont dangereux parce que d'après cette prison-là, sur 100% de ces condamnés, c'était plus de 40 à 50% des violeurs sexuels, des criminels sexuels. J'ai parlé des efforts que la nation a fournis, n'est-ce pas, pour faire condamner ces gens-là. Ce n'était pas déjà facile. Et ce sont des efforts énormes. C'est-à-dire, les chambres foraines coûtent cher et au gouvernement et aux partenaires. Déplacer des juges partout dans ces lieux-là, à Fizi, Baraka, et qu'on sort, la cour militaire, les tribunaux militaires, les garnisons, directeurs, aller partout là-bas.
Voilà. En amont, vous dépensez beaucoup d'argent pour organiser ces procès, mais en aval, vous ne faites rien pour, n'est-ce pas, aménager les endroits où ces prisonniers peuvent être détenus.
Bon, c'est ce qui est choquant, non. C'est ce qui est choquant. Dernièrement, on a fait ce que nous avions recommandé, ce que nous avons commencé à faire, ça veut dire les transferts croisés. Il y a eu un certain nombre de prisonniers d'Antéré, de Bukavu, qui ont été transférés à la prison d'Ndolo. Et je crois si les processus avaient continué, les transferts croisés, c'est-à-dire que tout cela vienne en Ndolo, je crois que les criminels d'Antéré qui ont facilité ces évasions n'auraient pas eu la possibilité d'opérer parce qu'ils seraient déjà à Kinshasa. Et puis, on ne peut pas dire, je dis non, il y a eu changement de directeur et alors la prison. Donc, c'est comme si, donc, changement de directeur, les prisonniers ont grévé et leur grève s'est reconverti, n'est-ce pas, à invasion. Donc, c'est comme la récréation. Donc, là, il n'y avait pas de prison.
Voilà, nous avons Malonga Koubali de Bandunduville qui dit la situation d'évasion des détenus de la prison centrale de Bukavu accuse la faiblesse et l'impuissance de la sécurité à l'est du pays. Comment peut-on trouver un prisonnier avec une armes de guerre.
Non, t'as dit, ils ont arraché les armes de guerre aux surveillants, c'est le fait. Non, t'as dit, tout ça, c'est lamentable. Regarde, Guy, il y a combien de pays voisins où vous avez entendu qu'il y a eu des évasions? Il n'y a que chez nous. Et ça, on ne sanctionne personne. Les ministres provinciaux de la justice, les directeurs de la prison, ces gens-là devaient d'abord être directement arrêtés. Tous ceux qui sont arrêtés, d'abord, suspendus. Pourquoi l'on ne sanctionne pas? Vous savez, Montesquieu a dit que la justice ne représente rien du tout si les condamnés ne peuvent pas purger leur peine. La justice ne représente rien. La justice n'a sa raison d'être que si les condamnés peuvent respecter la justice, ça veut dire purger leur peine. Et non seulement ça console les victimes, mais ça apaise ce qu'on appelle l'ordre public. La société est apaisée parce qu'elle a conscience que les criminels ont été condamnés et qu'ils sont en prison. Mais imaginez, réaliser un peu la population de Bukavu qui a appris que tous les criminels condamnés courent les rues. Et ils ont des armes. Donc, c'est au problème-là. Sur la population, il faut que des sanctions puissent tomber. Si ça ne tombe pas au niveau provincial, en tout cas qu'au niveau central, on puisse sanctionner d'abord, pour des raisons d'enquête, tous ces négligents qui sont distraits, n'est-ce pas, qui ne représentent pas dignement le pouvoir central, en province notamment, tous ces administratifs locaux, ministres provinciaux et consorts, être sanctionnés pour irresponsabilité, ces évasions-là, on pouvait les prévenir. On l'a déjà dit plusieurs fois, comment on peut prévenir Merci. Et les éviter.
Maître Donatien Moulemé-Odéroi, à l'issue de l'opération de ratissage, les forces de sécurité ont pu appréhender 54 détenus. Et combien d'armes avez-vous récupérées parmi les 6 armes qui ont été emportées par les fugitifs?
Merci beaucoup. D'abord, je voudrais éclairer les confrères qui interviennent. Il n'y a pas que 2 policiers commis à la garde. Il n'y a pas qu'un seul surveillant commis à la garde, c'est faux. Il y a 15 policiers qui sont commis à la garde et qui sont à la guérite. Et cela chaque jour. Il y a 15 militaires commis à la garde. Et en plus de ce nombre, il y a un militaire tous les 10 mètres aux alentours de la prison, c'est-à-dire derrière et devant la prison. Ça, c'est une précision. La deuxième précision est, on ne peut pas dire que la sécurité des détenus était assurée par leurs collègues détenus. Non, non.
Alors, comment en dépit
et les militaires qui sont commis à la garde.
Maître, comment en dépit de la présence de tous ces militaires et policiers, comment en dépit de cela, les prisonniers sont parvenus à neutraliser ces militaires, à leur arracher les armes.
La province du Sud Kivu, parce qu'il y a la prison de Kabar qui est opérationnelle, il y a la prison de Bunyakiri, la prison de Kamituga, de Walungu, d'ailleurs qui a été inaugurée aujourd'hui, la prison de Fizi et la prison de Kalé.
Voilà. Maître, j'ai posé une question.
Répondant maintenant à votre question. Et
combien d'armes ont été récupérées?
Hier, on a pu mettre la main sur 6 évadés qui sont rentrés au-delà de 54 qui étaient
donc
déjà...
Donc ça fait 60 personnes.
Pardon?
Ça fait 60 personnes qui ont été rattrapées.
Oui, alors...
Et les armes qui ont été récupérées?
Pour la journée d'aujourd'hui, je n'ai pas encore de rapport à ce sujet, donc je ne connais pas le nombre de ceux-là qui ont été repris aujourd'hui. Sinon, c'est chaque jour qu'on est en train de mettre la main sur ces différents évadés.
Et les armes qui ont été récupérées?
Bon, jusqu'ici, personnellement, je n'ai pas eu l'information sur les armes récupérées.
Merci. Que faire pour améliorer les conditions carcérales en RDC? 4 détenus de la prison de Boma à Kipushi au Katanga sont morts le dimanche 1er mai dernier. Le directeur de la prison affirme que ces hommes qui étaient en détention préventive sont morts d'étouffement. Construite pour accueillir 60 détenus, cette maison carcérale en compte actuellement 311. Les détails avec Karine Topé.
Ces personnes étaient poursuivies pour plusieurs accusations, notamment pour causer blessures aggravées, indiquent les sources judiciaires de Kipushi. C'est le cas de celui qui est venu du territoire de Mitwaba. Tous ont manifesté les mêmes signes avant de mourir. Selon le directeur de la prison de Boma, ils sont morts d'étouffement. 3 autres détenus ont été dépêchés à l'hôpital de référence Betty ce dimanche pour des soins appropriés. Eux aussi présentent les mêmes symptômes. Pour la société civile, cette prison a été construite depuis l'époque coloniale et sa capacité d'accueil était de 30 prisonniers du territoire de Kipushi. Puis, elle devait accueillir les prisonniers de tout le district du Haut-Katanga. Ainsi, pour l'heure, elle peut héberger 60 personnes, mais elle en compte 311. Les sources judiciaires renseignent aussi que depuis le début de cette année, c'est un total de 8 prisonniers qui sont décédés, certains à l'hôpital. Entre-temps, à l'hôpital, des examens sont en cours pour déterminer si d'autres causes ne seraient pas à la base de ce décès. Lubumbashi, Karine Topéridassi, Radio Kapi.
Maître Donatien Moulemé Odéroi, conseiller juridique au ministère provincial de la justice, droits humains, fonctions publiques et relations avec la société civile du Sud Kivu. Vous venez de suivre, 4 prisonniers meurent d'étouffement. Que faut-il à votre avis pour améliorer les conditions carcérales en RDC?
Non, moi je pense que au niveau de chaque prison, il existe un service médical. 2 ou 3 médecins sont toujours affectés aux différentes prisons, ainsi qu'un corps des infirmiers. C'est déjà ça. Et peut-être il faut vite transférer tous les cas qui nécessitent une intervention beaucoup plus spécialisée pour essayer de répondre à cette exigence médicale.
Ok, Maître Onésime Ndoudi, vous êtes président national de l'Organisation congolaise pour la défense des prisonniers congolais. Qu'est-ce qu'il faut pour améliorer les conditions carcérales?
Nous avons toujours décrit, et moi j'ai déjà proposé, si possible, que l'État congolais arrive à privatiser la gestion des établissements pénitentiaires en RDC. On pourrait trouver solution dans cette calamité qui a eu lieu domicile dans nos établissements pénitentiaires en RDC.
À part privatiser, on ne peut pas
proposer on des doit trophées, allouer les budgets un affectés. Budget, on doit allouer un budget conséquent au ministère qui a dans ses prérogatives la charge de gestion des établissements pénitentiaires. Puisque les budgets alloués à la gestion des établissements pénitentiaires, c'est vraiment déplorable. C'est comme si on ne tient même pas compte de cela, mais ils oublient que la prison, c'est l'instrument principal de la répression. Mais on ne peut pas parler du droit pénal si les établissements pénitentiaires ne sont pas bien entretenus pour que la répression se fasse sentir, c'est dans les prisons. Ce n'est pas par le jugement que les juges rendent dans les cours des tribunaux, mais les peines qu'ils subissent dans les établissements pénitentiaires, c'est là. La justice peut être forte.
Il y a aussi la formation du personnel pénitentiaire.
Oui. Vous pouvez avoir des personnels formés. Mais si les instruments ne répondent pas aux normes, peu importe la formation du personnel. Nous, à l'époque où j'étais à la fraternité, à la prison de fellowship, nous avons procédé à la formation des OPJ. L'ancien directeur de la prison centrale de Makala, Dido, nous les avons envoyés en France en stage. Mais ils étaient au nombre de 17, 3 ont pris fuite, et 14 sont entrés. Mais peu importe la formation qu'ils ont, au moment où c'est comme si les mêmes véhicules, on change de chauffeur, quoi là, mais les pannes restent les mêmes.
Maître Riffin Louko, chercheur en droits humains, nous allons prendre pour vous cette question qui vient des Mbujimayi au Kasaï oriental.
Galvani Placide à Mbujimayi au Kasaï oriental. Cette situation prouve comment les autorités congolaises donnent moins d'importance à la sécurité du peuple, mais aussi à l'appareil judiciaire. Car comment expliquer qu'une telle évasion spectaculaire se produise sans aucune résistance, mais aussi avec une intervention rapide des forces de l'ordre très fébrile? Cependant, pour parer aux éventuelles évasions, les autorités doivent dynamiser une bonne politique judiciaire pour rendre les conditions carcérales très humaines, afin de rendre ces milieux purement rééducationnels par l'apprentissage de métiers professionnels pour leur réintégration, initier les prisonniers aux travaux d'intérêt communautaire comme l'agriculture, l'assainissement du milieu, et enfin renforcer les gardiens de prison par des moyens efficaces et efficients, car leur complicité n'est pas à sous-estimer dans de tels cas.
Maître Riffin Louko.
Merci Placide, mais bon, ça ce n'est pas spectaculaire, au contraire ça devient même banal. À Lubumbashi c'était 900 personnes. 900 personnes, c'est presque une université qui s'est volatilisée, donc les étudiants, toute l'université,
c'est à l'époque de l'évasion des Gédéons.
Ben voilà, bon, 900 personnes, donc 300 c'est banal, donc c'est comme une classe d'un complexe scolaire qui sort à la récréation. Ça devient très banal et c'est choquant. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, je réclame la sanction. Il faut que les sanctions puissent tomber, mais pour que les choses changent. Voici les propositions, Guy. 1. Qui est une loi. Il faut une loi. Il faut prendre en charge les nouveaux phénomènes qui n'ont pas été pris en charge par les lois anciennes. Il faut une loi qui dit quoi? La surpopulation est due principalement au fait que on envoie en prison toute personne, même pour des injures publiques, même pour toutes choses, on envoie des gens en prison. Il faut, comme en Belgique, en France, des lois qui disent que pour les injures publiques, vous les balayez par les personnes, ils rentrent chez eux. Il y a des infractions qui ne méritent pas, comme on les appelle des contraventions, qui ne méritent pas, ou bien des délits, tout court, délits, qui ne méritent pas la prison.
Et donc il faut adapter les lois.
Il faut qu'une loi soit prise pour, n'est-ce pas, empêcher aux magistrats d'envoyer en prison toutes personnes. Et même pour les dettes civiles, les gens sont envoyés en prison. Il faut une loi pour ça. Parce que les lois actuelles, le code de procédure pénale et le droit pénal ne les permettent pas. Les magistrats peuvent envoyer toute personne qu'ils l'estiment. Oh non, il y a des indices sérieux, ils l'envoient en prison. D. Il faut qu'il y ait une loi qui considère que nos prisonniers, les gens ne doivent pas être condamnés uniquement pour aller rester en prison. Toutes nos prisons, les gens sont là. Et comme on dit, tous sont dans les chocs. Ça veut dire, dans le blanchissement de leur peau et consorts. C'est tout ce qu'ils sont en train de faire. Si, en tout cas, ils ne sont pas en train de prêcher ou de prier. Et ça, c'est manque à gagner est énorme. Alors que la nation doit les nourrir. Il faut donc que la loi dise qu'on introduise dans notre code pénal la prison pour les travaux d'intérêt communautaire.
Pour participer au développement du pays.
Du pays. Il faut qu'une loi puisse reconvertir toutes ces peines de travaux forcés. On n'en a pas besoin. Il faut que les gens qui sont condamnés puissent produire, servir la République, servir la collectivité. Nos lois actuelles ne les permettent pas. Et puis ensuite, Guy, il faut que des plantations, n'est-ce pas, puissent être dotées à toutes nos prisons. La proposition du collègue qui dit qu'il ne faut privatiser, on est tenté de le faire parce que nous avons crié depuis longtemps pour qu'on puisse essiffler un montant énorme dans le budget. Vous savez, Guy, nous étions en train de gérer toutes ces histoires-là, tous ces montants-là. C'est quoi qu'on donne comme montant? C'est tellement minime que ça sert uniquement à la ration. L'entretien de prison, les consorts, les frais de surveillance et tout ça, rien du tout. Et c'est pourquoi tous ces directeurs de prison, et ce n'est pas seulement Bukavu, où ils rançonnent, c'est presque toutes nos prisons. Les détenus de prison rançonnent non seulement les détenus, mais aussi les visiteurs. Ça, c'est connu. Nous, il faut que ça change. Il faut vraiment même des états généraux, ce n'est plus nécessaire parce que le problème de nos prisons sont connus. Il faut donc seulement commettre les personnes qu'il faut à la place qu'il faut, et surtout, que les lois nouvelles puissent prendre en charge ces phénomènes ici. Sinon, si ça continue comme ça, c'est toujours l'image du pays, comme une république bananière où tout est banalisé, même les choses les plus sacrées. Nous considérons donc que le pays ne mérite pas ça, et que les choses peuvent changer si certains dirigeants, à un certain niveau, puissent être conscients qu'on n'est pas ministre, on n'est pas gouverneur, on n'est pas ministre provincial, ceci, cela, on n'est pas détenu de prison. Sans impact, vous faites 5 à 10 ans, vous ne laissez aucun changement dans la responsabilité qu'on t'a confiée. Il faut donc que nous apprenions que la responsabilité, c'est pour laisser un impact, pour changer les choses, pour que les choses avancent et que vous puissiez, comme le gouverneur Condé, comme le gouverneur Lunda Bulunu, le premier ministre qui a laissé un pot ici, Condé a laissé les souvenirs à Goma, pour que les gens sachent que les biens, les bonnes choses, tant qu'on a l'occasion, faites les biens, et les biens-là demeurent.
Maître Donatien Moulemé, quelle est votre réaction par rapport aux propositions qui ont été faites par Maître Onésime et Maître Riffin? Maître oui. Onésime, lui, propose qu'on privatise les prisonniers, plutôt les prisons de la RDC. Maître Louko, il demande qu'on puisse sanctionner, n'est-ce pas, et on puisse introduire la sanction, qu'on puisse prendre certaines lois, et que les prisons puissent servir, n'est-ce pas, pour des travaux qui peuvent contribuer au développement du pays. Votre réaction?
Oui, bon, d'abord, les sanctions, et déjà, nous avons dit que les directeurs, l'ancien directeur a été suspendu, le chef de division de la justice a été suspendu, et l'autorité provinciale a daigné introduire une plainte formelle auprès du procureur général de Bukavu pour des poursuites judiciaires. S'agissant des propositions qui sont faites par les collègues, je pense qu'il faut d'abord procéder par le désengorgement des prisons. D'abord, en demandant aux officiers du ministère public de respecter le principe des libertés, qui est un principe constitutionnel. De deux, construire, opérationnaliser ce que l'on appelle maison d'arrêt, et que ces maisons d'arrêt soient séparées carrément des différentes prisons. Construire des prisons qui reçoivent seulement et rien que les militaires.
Merci, Maître Donatien.
Procéder au transfert des prisonniers dangereux vers les prisons hautement sécurisées.
On a compris, Maître Donatien.
En attendant que.
Maître Donatien, oui. quel est le budget que le gouvernement provincial du Sud Kivu affecte dans le fonctionnement de la prison centrale de Bukavu? Ça sera sur votre conclusion.
Le budget vient toujours du gouvernement central, ça vient du ministère de la Justice. Il y a un fonds qui est alloué et le fonds est toujours logé à la banque pour, n'est-ce pas, subvenir aux besoins des prisonniers d'une manière quotidienne.
Alors, en tant qu'autorité politique, pourquoi vous n'êtes pas intervenu pour améliorer les conditions des prisonniers, hein? Vous avez ici rappelé que la prison centrale de Bukavu n'a pas de toilette. Vous le savez, c'est un fait connu, un fait notoire.
Non.
Pourquoi vous n'êtes pas intervenu, n'est-ce pas, pour essayer de construire des toilettes? Ça coûte combien de construire des toilettes dans une prison?
Non, ce n'est pas ça. Dans la prison de Bukavu, vous avez la cour centrale. Dans la cour centrale, c'est la cour principale où il y a 12 cellules. Et là, nous avons plus de 20 toilettes.
Ok.
J'ai parlé plutôt des cellules à l'intérieur des cellules.
Ok, nous retenons qu'il y a des toilettes dans la prison centrale de Bukavu. Maître Ndoudi, votre conclusion.
Merci. D'abord, je réplique au confrère. C'est de lui que nous avons appris au cours de cette émission que les prisonniers sortaient avec des seaux parce qu'à l'intérieur des cellules il n'y a pas des installations sanitaires.
Voilà. Maître Riffin Louko, votre conclusion?
Tout est presque bouché. Je connais la prison centrale de Bukavu. Il faut absolument des entretiens. Puis ici, pour les collègues, on n'est pas confrères ici. On est collègues, donc on n'est pas des avocats ici. Nous sommes des analystes, nous sommes ceci, cela. Donc bref, il faut qu'on arrête avec la banalisation des choses sérieuses, la justice.
Il faut rappeler que vous étiez aussi au ministère de la Justice il y a de cela 3 ans.
Voilà, donc conseiller juridique et porte-parole.
Merci, c'est la fin de cette émission. Jean-Claude Tiala était à la technique, Alain Irung à la réalisation assistée de Kaline Kouté, sous la supervision de Pele Kipela Mondo, devant ses micros, Guy Maté. Merci et bon sou de programme sur Radio Capi.